Nous allons accueillir à présent Andrea Del Lungo, qui est professeur à l'Université de Lille et qui va rouvrir la fenêtre qu'il avait ouverte en 2014. Ce livre qui a été publié dans la collection de Gérard Genette aux éditions du Seuil, La fenêtre, sémiologie et histoire de la représentation littéraire.
Bonjour, merci à Antoine Compagnon, à son équipe, aux organisateurs de cette rencontre si stimulante de m'avoir invité. Alors, je vais un peu jongler sur deux ordinateurs et je n'aurai pas la maîtrise qu'avait Pierre Bayard ce matin de le faire parce que je me suis trompé et j'ai imprimé la version de mon texte qui n'est pas la toute dernière. Donc, je dois lire sur ordinateur et en même temps vous montrer les images. Et je me permettrai aussi de commencer cette réouverture de la fenêtre de mon livre donc, de 2014 par une petite réflexion personnelle, je dirais peut-être même existentielle. Je ne sais toujours pas, alors que je viens d'avoir 50 ans, si dans nos vies d'enseignants-chercheurs, nous choisissons nos objets d'études ou si nous sommes choisis par nos objets d'études. Et je me rends compte, en retraçant donc mes recherches, que j'ai toujours étudié, tout ce que j'ai étudié relève au fond d'un seul concept, d'une seule image, qui est celle de la frontière. D'une frontière que j'ai déclinée comme frontière du texte littéraire, dans l'ouvrage sur l'incipit romanesque de 2003, frontière de la représentation, frontière disciplinaire, frontière critique, dont je vais parler aujourd'hui, seuil à double sens, signe à double sens, contradiction poétique et idéologique que j'ai analysée notamment dans le cas de Balzac, image seuil comme celle de la fenêtre dont je vais parler aujourd'hui. Or, je me rends compte qu'en commençant ce parcours de recherche, j'ai franchi une frontière, cette fois-ci une frontière géographique bien réelle, choisissant de vivre et de travailler en France, de quitter donc mon pays, de faire l'expérience de l'altérité, voire de l'étrangeté, jusque dans la langue, pour comprendre enfin que l'on peut habiter plusieurs espaces, que l'on peut incorporer plusieurs langues, bref, qu'il est possible d'effacer ces frontières ou au moins essayer de les effacer, ce qui était au fond l'utopie de ma génération. L'utopie qui n'était plus celle de mai 68, j'avais alors un an, mais plutôt celle de pouvoir partir, de pouvoir franchir ces frontières. Je compte parmi ceux qui avaient déjà les valises prêtes il y a 4 jours pour éventuellement repasser la frontière, mais je suis très content d'être toujours là. Dans le champ de mes propres recherches, j'ai toujours voulu imaginer la frontière comme un seuil ouvert. Voilà pourquoi la réouverture d'aujourd'hui, comme un lieu de passage, comme un lieu de transition. Non seulement au niveau des thématiques que j'ai pu aborder, comme la fenêtre, mais aussi en ce qui concerne les approches théoriques du domaine littéraire, constamment croisées dans mes travaux, ce qui ne va pas sans problème, je le montrerai, j'espère, aujourd'hui, en faisant une autocritique, constamment croisées dans mes travaux en vue donc d'un décloisonnement critique et disciplinaire. Alors, cette petite réflexion préalable, en guise de captatio, me permet de légitimer le sujet de mon livre, « La fenêtre comme frontière », et de le légitimer dans l'actualité, dans cette situation de crise où les frontières se trouvent à nouveau tracées. Au fond, cette réflexion un peu politique permet aussi de trouver une utilité à ce travail. Les frontières, et je pense que Marielle en a déjà un peu parlé, Françoise Lavocat sans doute va en reparler, les frontières sont un objet littéraire par excellence. Je dirais même que l'une des spécificités de la littérature consiste à interroger les frontières entre soi, l'autre et le réel, et que cette spécificité, cette interrogation constitue la littérature en tant que forme de connaissance, en tant que forme de connaissance de la réalité, autre que d'autres disciplines de la connaissance, et en tant que lieu d'un questionnement sur la connaissance. Je vais revenir donc sur cette image, celle de la fenêtre dont j'ai traité dans cet ouvrage. C'est une image multiple. La fenêtre est en effet un objet référentiel, un objet de la réalité quotidienne, une image aussi à double sens du terme, une représentation littéraire, mais aussi un objet à valeur métaphorique. Selon Philippe Hamon, c'est un technème qui préside à l'organisation de l'espace, notamment en ouvrant l'espace descriptif, dans les textes réalistes essentiellement. C'est un thème qui traverse l'histoire littéraire. C'est Jean Rousset qui l'a montré, notamment à propos de Madame Bovary. Cette centralité absolue de l'image dépassait, à mes yeux, le statut thématique de la fenêtre. La fenêtre articule le réel et sa représentation, distribue les espaces, mais aussi elle inscrit un sujet dans sa relation au monde et constitue ainsi un objet herméneutique. L'image de la couverture du livre au seuil, donc c'est La femme à la fenêtre de Caspar David Friedrich. Je vous montre aussi l'image concurrente parce que l'éditeur m'avait proposé aussi une fenêtre avec vue de Bonnard. Et si j'ai choisi l'image de Friedrich, ce n'est pas par classicisme, mais tout simplement parce que cette image inscrit précisément le sujet. Il n'est pas de fenêtre sans sujet, sans point de vue regardant, dans ma vision et dans la vision littéraire que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage. La fenêtre, comme tout seuil, unit et sépare à la fois. Elle est donc au cœur d'une dialectique entre l'intérieur et l'extérieur, dont les déterminations spatiales se chargent de valeurs symboliques métaphoriques. C'est aussi un seuil entre le privé et le public, car toute fenêtre présuppose une maison ou une demeure conceptuelle et installe donc une relation entre un lieu clos et un espace ouvert. Ainsi, comme je le disais, à travers ce seuil toujours double, c'est une relation du sujet au monde qui se joue, relation en réalité ternaire entre l'intérieur, l'extérieur et un œil mobile qui regarde, qui articule la disposition des espaces. La fenêtre elle-même regarde, selon une métaphore ancienne qui fait de la fenêtre l'œil d'un corps maison, mais elle est aussi regardée, elle laisse pénétrer les rayons de l'amour, toujours selon une métaphore ancienne. C'est le lieu qui articule donc cette définition identitaire de l'individu à une relation complexe à l'altérité. De mon point de vue, j'avais donné cette définition. La fenêtre est un espace réel, imaginaire ou fantasmatique qui rend accessible à nos sens cet infini insaisissable qu'est le monde. Elle permet donc un accès à la connaissance, elle articule le voir au savoir par son rôle de cadrage, sans oublier que c'est une métaphore qui définit la représentation artistique, la création même artistique depuis la Renaissance. Je vais y revenir très rapidement. Alors, pour moi, étudier cette image signifiait analyser les manières dont la littérature définit cette relation entre l'individu et le monde au sein d'une représentation qui donne à lire ce questionnement existentiel, l'intégrant au savoir historique, sociologique, scientifique ou conceptuel qu'elle inscrit dans le texte. C'est pour cela que, dans ma perspective, la fenêtre était moins un thème qu'un signe. Un signe, je vais revenir sur cette question, qui articule l'ensemble de ces relations. La fenêtre, donc, par la fenêtre, la littérature pense le monde. Or, malgré l'utilité, je dirais presque éthique, de cette interrogation sur la fenêtre comme frontière, j'ai souvent eu des doutes sur la pertinence de ce sujet dans le panorama de la critique actuelle. Je m'explique. Au moment où j'ai écrit cet ouvrage, exception faite de Philippe Hamon et de Jean Rousset, il n'y avait pas d'études sur la fenêtre, contrairement au domaine des arts visuels, où beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'expositions d'ailleurs, et de catalogues d'expositions avaient été publiés sur ce thème. Alors, je n'imagine pas que mon ouvrage a pu avoir un impact, comme on dit de nos jours, mais plutôt que d'autres critiques se sont penchés sur la même question presque en même temps, ce qui me conforte dans l'idée que cette image de la fenêtre est dans l'air du temps. Par exemple, Émilie Piton-Foucault, alors de très mauvaise qualité cette image, qui a écrit une thèse de 1500 pages sur Zola, qui a pour titre « Zola ou la fenêtre condamnée, la crise de la représentation dans le Rougon-Macquart ». Toute la première partie de 300 pages porte précisément sur l'image de la fenêtre pour montrer à quel point, contrairement à ce qu'affirme Philippe Hamon, il ne s'agit pas là d'une transparence de la fenêtre permettant justement une ouverture descriptive, mais bien au contraire, cette fenêtre est essentiellement opaque. Et puis un colloque à Besançon sur fenêtres, ouvertures et perspectives qui date de 2015 dans une perspective complètement interdisciplinaire, croisant donc art visuel, littérature, architecture. Cet effet, avec d'autres études donc, qui entrent en résonance avec la mienne, m'a conforté parce que le risque était grand. J'étais confronté au moment où j'ai écrit cet ouvrage à un double héritage, celui post-structuraliste de Philippe Hamon, qui voyait dans la fenêtre justement un objet technique, un dispositif, et celui thématique de Jean Rousset. C'est-à-dire, j'étais confronté à deux approches en partie dépassées, osons le dire, ou d'une certaine manière épuisées. Alors, l'objet de mon intervention aujourd'hui n'est pas de revenir sur les acquis de cet ouvrage, qui est encore disponible dans le commerce, donc vous pourrez utilement le consulter, voire l'acheter, mais revenir sur la théorie, justement, sur cette difficulté théorique, et de faire une véritable autocritique pour montrer aussi dans quelle mesure cet ouvrage, bon, on va dire certaines parties, étaient ratées. Alors, ma volonté d'abattre les frontières m'a conduit à décloisonner aussi, autant que possible, les disciplines dans cet ouvrage, donc sur la fenêtre. J'ai pu partir de Léon-Baptiste Alberti, qui, à la Renaissance, donc, c'est la traduction française de son traité sur la peinture, de Pictura, qui, à la Renaissance, donc, utilise cette image comme une métaphore de la création artistique. J'ai d'ailleurs voulu montrer que cette image simpliste de dire voilà, le peintre ouvre une fenêtre et peint ce qu'il voit au-delà de cette fenêtre, cette image est en réalité fausse, cette image référentielle, platement référentielle de la peinture, et que ce que dit Albert, c'est plutôt que la fenêtre est une fenêtre imaginaire. Dans le texte italien vulgaire qu'il a publié l'année suivante, Albert, la question est beaucoup plus claire, c'est une fenêtre imaginaire, c'est le lieu où la peinture aura lieu, précisément, c'est-à-dire c'est un lieu de genèse de la création. Et j'ai voulu poursuivre ce dialogue disciplinaire, je passe un peu plus rapidement, sur bon, la fenêtre portative, qui effectivement trace les lignes de la perspective et qui est ici montrée par Dürer, mais aussi sur l'architecture, et voilà un palais florentin qui a été précisément construit par Alberti lui-même, où les fenêtres, notamment les fenêtres du premier étage, se trouvent à environ 4 mètres de hauteur par rapport au sol, alors que les biforts du premier et du deuxième étage se trouvent à 2 mètres. La fenêtre ne servait pas à faire passer le regard à la Renaissance, ce qui montre à quel point l'objet, et c'est là la difficulté à laquelle je me suis heurté, l'objet réel n'avait pas les mêmes fonctions que l'objet fenêtre au moment de l'invention du verre coulé, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, où la technique a permis aussi d'avoir une grande transparence de fenêtre, de le rabaisser finalement au niveau du regard et d'en faire la grande image de l'urbanisation du XIXe siècle avec le vis-à-vis de fenêtres parisiennes mises en scène par plusieurs auteurs. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'à la naissance de la photographie, voilà la première image photographique fixée sur cuivre par Niepce, à la naissance de la photographie est une fenêtre également. Niepce cadre depuis sa propre fenêtre. Alors Niepce était un inventeur, non pas un artiste, mais il sent le besoin d'objectiver, d'utiliser un double cadrage. Et de cette manière, il donne au fond à voir l'image la plus subjective qui soit, c'est-à-dire celle qu'il est le seul à voir de sa propre chambre. J'aurais aussi peut-être pu parler de cinéma, mais je suis resté à cette interdisciplinarité limitée et modeste que l'on peut avoir quand on est spécialiste plutôt d'un domaine. Mais ce qui m'intéressait surtout était un décloisonnement critique. Je voudrais d'abord apporter une caution politique à un tel positionnement. Dans notre époque contemporaine, qui essaie de retrouver un sens de la littérature après les apories de la modernité, après la postulation de la fin de l'histoire, de la fin des idéologies, maintenant aussi de la fin de la vérité ou de la post-vérité, il me semble qu'une ouverture critique se révèle non seulement nécessaire, mais indispensable au niveau de la recherche. Le savoir n'est certes pas innocent, sa transmission l'est encore moins, Mais la critique littéraire ne pourrait constituer un champ de bataille où deux positions dogmatiques s'affrontent, comme ce fut le cas il y a quelques décennies. Donc ce que je revendique n'est pas une illusoire neutralité de la critique, mais l'exigence historique d'une dialectique renouvelée entre approches, notamment les approches formelles et les approches précisément historiques, qui doivent être considérées comme complémentaires dans cette interrogation globale sur le sens de la littérature. Et voilà le moment de l'autocritique. Ce que j'ai essayé de faire était une, entre guillemets, sémiologie historicisée. Je n'ai pas voulu mettre ce syntagme dans le titre où je parlais de sémiologie et histoire de la représentation littéraire parce que je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas entièrement dans cette affaire. Mon propos était de historiciser donc la sémiologie qui a toujours érigé le paradigme saussurien de la linguistique en modèle, et donc qui a toujours érigé un paradigme synchronique et non pas diachronique. Mon but était d'analyser le statut et la valeur du signe de la fenêtre dans le domaine littéraire, dans cette représentation qui instaure une relation sémiologique et qui ne peut être dissociée du processus interprétatif. Donc il s'agissait pour moi de définir un positionnement qui était en partie, je pense, inédit dans le cadre de l'épistémologie de la critique littéraire, susceptible de conjuguer, d'une part, les acquis de l'analyse sémiologique, précisément synchronique, et d'autre part, l'histoire littéraire, voire l'histoire des idées. Je voulais donc combler ce hiatus, qui est toujours croissant, me semble-t-il, entre la théorie et l'histoire, pour simplifier, entre les approches analytiques, qui refusent de plus en plus le geste herméneutique, et une vision historicisée de la littérature qui s'impose à nouveau de nos jours. Alors, je n'ai pas voulu fonder une nouvelle approche critique, même si j'avais rêvé à faire une sémio-histoire, une sémio-critique sur le modèle de la sociocritique, par exemple, il y a 45 ans. Je n'ai pas voulu fonder une nouvelle approche critique, justement pour éviter le fixisme idéologique qui serait propre à cette opération. Je n'ai pas voulu non plus mettre une étiquette plus ou moins à la mode, glamour, à cette approche pour qu'elle soit facilement identifiable. Et je crois que si l'on peut déjà tracer un bilan de cette journée, on est tous dans cette idée de ne pas vouloir fixer, de ne pas vouloir créer des nouvelles approches illusoires. Il s'agissait pour moi davantage de dessiner une perspective. Je vous donne un exemple. Pour analyser la fenêtre, j'aurais pu utiliser une coupe synchronique. À ce moment-là, la fenêtre aurait été intégrée à un ensemble d'autres signes littéraires qui ont des fonctions, des valeurs semblables, mais qui se différencient grâce à des traits distinctifs. Par exemple, donc sur le modèle précisément de la linguistique saussurienne. Par exemple, articuler fenêtre à porte, avec le trait commun de l'élément architectural de la maison, mais avec comme trait distinctif le franchissement permis par la porte, non permis par la fenêtre. Ou fenêtre miroir, avec comme trait commun la surface vitrée et comme trait distinctif le passage du regard pour la fenêtre versus la réflexion du miroir. En revanche, j'ai voulu analyser la fenêtre suivant une coupe diachronique, me fondant donc sur la centralité de ce signe dans un corpus vaste à différentes époques qui inscrit la différenciation à l'intérieur du signe lui-même. Comme je l'ai rappelé, la fenêtre n'a pas le même statut, n'a pas les mêmes fonctions, ni les mêmes valeurs au cours de l'histoire. D'ailleurs, l'objet référentiel aussi est soumis à des variations de forme et de technique. Cet ensemble de variations devient dès lors irréductible au schéma synchronique, qui implique une définition fixe, stabilisée du signe, qui peut, sur la base de cette définition, se différencier ou s'opposer à d'autres signes par des traits distinctifs. Ai-je réussi le pari de conjuguer sémiologie et histoire, d'articuler synchronie et diachronie, de faire la théorie d'un objet littéraire tout en décrivant son devenir temporel? Clairement, non. Je me suis en revanche confronté à cette grande difficulté qui reste à mes yeux irrésoluble et qui consiste précisément à associer la théorie avec sa quête d'universaux et sa fondamentale atemporalité avec l'histoire, avec ses incessantes variations, avec les particularités, les spécificités qui constituent autant d'exceptions aux axiomes théorique. D'ailleurs, ce flottement, voire ce ratage, est parfaitement perceptible dans l'ouvrage, qui commence par des affirmations théoriques fortes, par l'ambition de faire de la fenêtre un objet théorique, précisément, par la définition aussi de ses fonctions, qui préside aussi à la partition de l'ouvrage, mais cette strette théorique initiale se délie progressivement, se dénoue dans une harmonie lente, dans une analyse qui joue sur les leitmotifs, justement, qui s'attarde sur des improvisations ad libitum. La phrase finale de mon ouvrage, je l'ai relu avec horreur, c'est de dire, après l'affirmation théorique initiale tonitruante, que cet ouvrage était une contribution à l'histoire du regard et de la représentation que la littérature permet de tracer. Donc finalement, j'ai récupéré l'idée du regard qui était autre que l'affirmation théorique initiale. En 5 minutes, je vais donc me soumettre à un exercice pétro-baillardesque, donc à la Pierre Bayard, voilà, qui consiste à essayer d'améliorer une œuvre ratée, la mienne, hélas, dont je réécrirai quelques parties. En fait, j'ai trop insisté sur la question du signe, et de cette manière, je suis peut-être aller trop rapidement à des conclusions ou à une tentative de typologie qui s'est révélée fallacieuse. Le problème essentiel, c'est celui d'une définition que j'ai donnée d'une catégorie supérieure de signes que j'ai appelée hypersigne. Qu'est-ce qu'un hypersigne ? Pour moi, la fenêtre, bien évidemment, était un hypersigne. Qu'est-ce qu'un hypersigne ? Définition malheureuse. C'est un noyau de la représentation artistique qui articule autour de lui le système de signes instauré par l'œuvre. Par sa centralité, il donne un sens à d'autres signes et permet de fonder des paradigmes de connaissance ainsi que les modèles herméneutiques de son déchiffrement. Je trouve que d'un point de vue conceptuel, c'est peut-être assez bien écrit, mais c'est extrêmement vaste. Et avec le crayon rouge, c'est exactement ce que j'ai écrit en marge, comme on peut le faire dans des copies d'étudiants un peu ambitieux. En réalité, cette catégorie de l'hypersigne, qui était pour moi celle précisément de la fenêtre, n'est pas théorisable dans des termes absolus. Et chaque œuvre présente des signes particuliers qui construisent et articulent la signification de l'œuvre elle-même. J'avais essayé néanmoins de donner quelques exemples. Voilà, exemple trop vaste d'hypersignes, parce que tout s'y trouve mélangé, donc les objets réflexifs, mais aussi les objets techniques ou scientifiques, les marques qui définissent l'identité ou l'appartenance sociale, l'ensemble des signes temporalisés, et les dispositifs qui organisent l'espace de la représentation, comme précisément la fenêtre. Et là aussi, je mets un trait au crayon rouge à côté de mon propre texte pour me dire que cette définition est trop vaste et qu'elle risque de diluer le concept lui-même. Bref, si je pouvais réécrire quelques pages, non pas l'ouvrage en entier, je trouverais peut-être une autre manière de le dire, non pas hypersigne, non pas donc penser une catégorie supérieure de signes, mais plutôt penser à un signe que l'on pourrait qualifier de palimpseste. Le signe palimpseste, donc un signe dont les réécritures constituent autant des variations, qui est donc le même en termes de fonction et de statut, la fenêtre comme seuil par exemple, mais qui est aussi toujours autre à chaque répétition par ses dispositifs particuliers, à chaque réécriture par les spécificités que le devenir historique lui assigne. Signe palimpseste ou peut-être intersigne sur cet intertexte interminable qu'est l'histoire de la littérature. Je pense que j'ai aussi trop insisté sur le signe comme indice, fourvoyé là par un paradigme 19e-iste dont on vient de parler d'ailleurs, où le signe devient précisément le lieu d'un déchiffrement herméneutique qui permet l'accès à la connaissance. Mais je passerai sur ce point pour arriver à une conclusion. La conclusion est la suivante. La fibre théorique n'a pas résisté à l'historicisation d'un objet textuel. Et j'y pense encore, et je me dis comment faire à articuler théorie et histoire. La fenêtre me paraît finalement irréductible à un seul statut du signe, à une disposition spatiale fixe, à des fonctions stables, elle m'apparaît surtout irréductible à tout effort taxinomique qui est le propre de la théorie littéraire. Mon objet, je l'avoue, s'est constamment soustrait aux catégories que j'essayais de définir pour lui assigner des valeurs générales et transhistoriques. Dans cet ouvrage, j'ai moi-même perdu ma fibre théorique, au début malgré moi. Mais après, je me suis laissé emporter, je me suis abandonné, au point d'abandonner la forme analytique qui est propre à la théorie, au profit d'une forme complètement démodée, celle du commentaire, dont je défendrai pourtant la pertinence. Au lieu de procéder à une dissection analytique, à cet étiquetage textuel indispensable au développement de la théorie littéraire qui trouve, grâce à ce travail préalable, ses propres catégories, je me suis livré à une forme d'analyse antitaxinomique, à un commentaire qui m'a parfois conduit, au fil de la plume, à m'éloigner de mon propos initial, voire à contredire mes efforts théoriques. Commentaire qui avait cependant pour but de déplier les potentialités sémantiques du texte, donc une forme de discours humble, peut-être servile même, mais utile à ce qu'on pourrait dire, on pourrait appeler une compréhension, et si possible une pleine compréhension du texte. Je ne regrette rien, cependant. Il ne s'agit pas maintenant de fermer les fenêtres et d'oublier ce livre, mais bien de le rouvrir, en particulier devant cette civilisation de la transparence, prétendue transparence, qu'emblématise de nos jours les immeubles entièrement vitrés, mais aussi, surtout, devant ce nouvel avatar de la fenêtre qu'est l'ordinateur, avec son système opératif Windows, dont voici le dernier logo, où les quatre carreaux de la fenêtre deviennent un espèce de miroir, mais qui en même temps illumine, projette de la lumière vers l'écran de l'ordinateur, précisément sur lequel on le regarde. Dans la conclusion de mon ouvrage, j'évoquais rapidement les éléments de continuité entre les fenêtres mises en scène dans la littérature et cette nouvelle fenêtre virtuelle, celle de l'ordinateur. J'en suis moins convaincu aujourd'hui. L'une des caractéristiques des réseaux sociaux, par exemple, serait l'effacement de la frontière entre espace intime et espace social, de cette frontière salutaire, au fond, que la littérature a constamment interrogée. Et cet effacement me semble illusoire, voire pervers, du moment que cette nouvelle forme relève de l'isolement et risque de nous engloutir dans un réseau qui n'a qu'un simulacre relationnel. Je crois qu'à plus forte raison, devant cette civilisation numérique, cette situation politique qui retrace inlassablement des frontières, je crois qu'à plus forte raison, disais-je, la littérature trouve sa raison d'être, voire son devoir moral, dans la nécessité historique d'interroger les frontières du sujet, de l'autre, du réel, de discuter les frontières de des appartenances sociales et nationales, de dépasser les frontières idéologiques au sein d'une critique pluraliste, entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que l'adjectif est de Barthes, qu'il a écrit à la fin de son compte rendu d'enseignement du séminaire sur Sarrazine en mai 1969. Il appelait une critique pluraliste celle qui serait capable aujourd'hui de dépasser les frontières, de rouvrir les fenêtres. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Andrea Del Lungo, pour cette lecture sévère d'un très beau livre. La discussion sera brève, on peut se donner une dizaine de minutes de discussion si vous êtes d'accord. Pour l'ouvrir, je voudrais faire état à la fois d'une expérience et puis une petite question. L'expérience, c'est celle justement de la beauté et de l'utilité de ce livre. C'est grâce à ce livre que... Une de nos étudiantes à l'EHESS a mené un très beau travail qui justement d'emblée pouvait ne pas être thématique sur les portes dans la poésie du XXe siècle. Il y a quelques années, c'est un sujet qui aurait pu sembler un peu convenu, un peu ordinaire. Mais grâce au travail qu'avait fait Andrea sur la fenêtre, on y trouvait d'emblée, enfin on y reconnaissait d'emblée un objet épistémique, et puis on pouvait tout de suite s'interroger sur la grande présence des portes et la recherche de respiration dans beaucoup de textes poétiques, littéraires, mais aussi sociologiques ou d'anthropologie critique de la modernité, qui tournent tous autour des portes. chez Breton, qui voulait définir le livre comme une porte grande ouverte, chez Adorno, qui s'interroge sur la nouvelle façon d'ouvrir et de fermer les portes, chez Simmel, et puis chez Ponge, qui a un très beau poème sur les plaisirs de la porte et qui plaint les rois qui sont privés du plaisir d'ouvrir les portes devant eux. Voilà, ce livre, il a vraiment une vertu, inspirante pour percevoir, disons, la pertinence épistémique, historique de sujets de cet ordre-là. Et ma question, en fait, elle est toute simple. La fenêtre est un objet partagé, et elle conduit en fait simplement à, elle te conduit simplement à revenir sur des choses dont tu parles dans le livre. Est un objet partagé entre roman et poésie, et elle n'a pas du tout le même sens dans le roman, où effectivement elle a un rôle d'embrayeur, elle allégorise la mission mimétique du roman. C'est vraiment l'objet qui à la fois met en œuvre et met en débat le geste même de la représentation, du regard, du point de vue. Et en poésie, elle est très présente chez Baudelaire. Et voilà, est-ce que tu pourrais revenir sur son sens, sur celui des fenêtres, des contours, des balcons, qui existent tout autrement en poésie que dans le roman ?
Sur le sens de ce partage générique ou
oui.
Sur le... Oui, en effet, le corpus que j'ai abordé est un corpus transgénérique, même si je suis plutôt spécialiste du roman, donc j'avais toujours peur de dire des âneries sur la poésie. Mais la métaphore de la fenêtre naît, effectivement, l'image de la fenêtre naît en poésie, parce que c'est surtout Pétrarque qui l'utilise, pas avec une fréquence extraordinaire, parce que dans le Canzoniere, il y a 6 ou 7 occurrences de la fenêtre, mais avec une centralité thématique très forte. Alors, sur la différenciation fonctionnelle des fenêtres suivant les genres, j'en suis moins convaincu, parce qu'il est clair qu'il existe une spécificité poétique des fenêtres dans l'image tout à fait classique du poète à la fenêtre, où la fenêtre est à la fois un lieu de regard vers l'extérieur, mais aussi de repli vers l'intérieur, et chez le romantique, en quête d'une harmonie, bien évidemment, entre ces deux espaces. Alors, bien évidemment, cette posture-là, la posture lyrique, existe moins, on va dire, dans le roman. Mais mis à part cet élément, je pense que les fonctions de la fenêtre sont assez transgénérique, dans le sens où c'est une image centrale et que son articulation du dedans et du dehors fonctionne aussi bien en poésie que dans le roman, que d'ailleurs dans le poème en prose, parce que peut-être le texte le plus connu sur les fenêtres est le poème en prose de Baudelaire, qui s'intitule précisément « Les fenêtres », où la même fenêtre est vue de l'extérieur et de l'intérieur, et la fenêtre devient le lieu, non pas d'une connaissance transparente, mais bien au contraire, d'un investissement imaginaire qui essaye de percer l'obscurité de ce qu'on ne voit pas, avec l'idée que ce qu'on ne voit pas est bien évidemment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fécond, comme l'écrit Baudelaire, que ce qu'on voit au soleil. Donc, il me semble que les fonctions de la fenêtre varient davantage selon les époques que selon les genres. Voilà une question à laquelle j'aurais peut-être pu répondre plus fermement dans cet ouvrage, même si je pense que j'ai volontairement mêlé poésie et roman pour montrer qu'on retrouvait les mêmes configurations, qu'on retrouvait souvent les mêmes articulations et les mêmes fonctions.
Dans la poésie surréaliste, elle est faite pour couper en deux,
oui,
l'homme penché à la fenêtre et pas pour construire un terrain de réflexion épistémique sur les enjeux de la représentation.
Oui, absolument.